Les deux hommes plantes qui venaient de partir revinrent porteurs d'un panier de roseaux tressés muni d'une lanière de chanvre en guise d'anse. Ils le posèrent aux pieds de Timonier, se tournèrent vers Tim, le saluèrent puis reculèrent en souriant. Timonier s'accroupit et fit signe à Tim d'en faire autant. Le petit garçon savait ce que contenait le panier avant même que Timonier l'ait ouvert. En sentant l'odeur de viande grillée, il dut s'essuyer les lèvres d'un revers de manche de peur de se mettre à saliver. Les deux hommes, ou leur femme peut-être, avaient préparé l'équivalent fagonardien d'une gamelle de bûcheron. Des filets de porc accompagnés d'un légume en tranches ressemblant à de la courge. Le tout était enveloppé dans de minces feuilles vertes, comme pour confectionner des sortes de popkins. Il vit aussi des fraises et des myrtilles, dont la saison était passée depuis longtemps chez lui.
« Merci, Sai. »
Tim se tapota la gorge à trois reprises. Tous rirent et l'imitèrent. Le grand échalas revint lui aussi. Une outre d'eau était accrochée à son épaule. Il tenait à la main une bourse du plus beau cuir que Tim ait jamais vu. Il la donna à Timonier, puis il tendit l'outre à Tim. Tim ignorait qu'il était assoiffé jusqu'à ce qu'il sente le poids de l'outre et presse les paumes sur ses flancs rebondis. Il la déboucha avec les dents, la leva sur son coude comme le faisaient les hommes de son village et but à la régalade. Il s'attendait à une eau saumâtre et peut-être grouillante de bestioles, mais elle était aussi douce, aussi fraîche que celle de leur source entre la maison et la grange. Les hommes plantes l'applaudirent en riant. Il aperçut sur l'épaule d'Échalas une pustule prête à exploser et se sentit soulagé lorsque Timonier attira son attention sur autre chose. C'était la bourse. Une espèce de couture métallique la barrait en son milieu. Lorsque Timonier tira sur une languette qui était fixée, la bourse s'ouvrit comme par magie. À l'intérieur se trouvait un disque de métal de la taille d'une soucoupe. Une de ses faces était couverte de signes indéchiffrables. En dessous, il y avait trois boutons. Timonier appuya sur l'un d'eux et une tige jaillit du disque dans un vrombissement aigu. Les hommes plantes qui s'étaient massés autour d'eux rirent et applaudirent. De toute évidence, ils s'amusaient comme des fous. Tim, à présent que sa soif était étanchée et qu'il avait les pieds sur la terre ferme, ou du moins sur un sol plus ou moins stable, décida de prendre un peu de bon temps lui aussi.
« Cela vient-il des anciens, Sai ?»
Timonier opina.
« Dans mon village, on dit que de telles choses sont dangereuses. »
Timonier ne sembla pas comprendre cette remarque, et ses congénères pas davantage à en juger par leur expression. Puis il éclata de rire, et d'un geste large embrassa tout ce qui l'entourait. Le ciel, l'eau, la surface spongieuse sur laquelle il se tenait, comme pour lui faire comprendre que tout était dangereux.
« Et dans ce coin, c'est probablement vrai, » se dit Tim.
Timonier tapa de l'index sur le torse de Tim, puis haussa les épaules comme pour s'excuser. « Un peu d'attention, s'il vous plaît. »
« D'accord, » dit-il, « je regarde. »
Et il pointa son index et son majeur sur ses yeux, ce qui déclencha l'hilarité générale, comme s'il venait d'en raconter une bien bonne. Timonier appuya sur le deuxième bouton. Le disque émit un bip, suscitant un murmure appréciatif dans l'assistance. Une lueur rouge baigna les trois boutons. Timonier tourna lentement sur lui-même, brandissant le disque de métal comme une offrande. Alors qu'il avait décrit les trois quarts d'un cercle, l'appareil émit un nouveau bip et la lueur rouge vira au vert. Timonier tendit un index herbu dans la direction que désignait le disque. Pour ce que Tim pouvait en intuiter, compte tenu de la position incertaine du soleil, il s'agissait du nord. Timonier lui demanda d'un regard s'il avait bien compris. La réponse était oui, sauf qu'il y avait un problème.
« Il y a de l'eau par là-bas. Je sais nager, mais... »
Il ouvrit la bouche, fit semblant de mordre et désigna l'îlot flottant où il avait failli servir de petit déjeuner à une créature écailleuse.
tous les hommes plantes s'esclaffèrent, et Timonier lui-même faillit tomber à terre à force de se tenir les côtes.
« Ouais, très drôle. J'ai failli être dévoré vivant. »
Lorsqu'il fut parvenu à se calmer, Timonier se redressa et lui désigna le bateau en bois flotté.
« Ah ! » fit Tim, « j'avais oublié. »
On avait connu des pistoleros plus futés. Timonier fit monter Tim, puis prit place au pied du mât, comme il en avait apparemment l'habitude. Les rameurs s'installèrent. On chargea les réserves d'eau et de nourriture. Tim avait rangé dans le sac de la veuve la bourse contenant la boussole, si c'en était bien une. Il passa le pistolet à sa ceinture, côté gauche, comme pour équilibrer la hache passée côté droit. On échangea quantité de hail de part et d'autre, puis l'échalas, qui était sans doute le chef, même si Timonier avait fait office de porte-parole, s'approcha. Planté sur la berge, il fixa Tim d'un air solennel. Il pointa les doigts sur ses yeux. « Fais attention. »«
Je vous vois très bien. »
Et c'était la vérité, bien qu'il ait les paupières lourdes. Il ne se rappelait plus quand il avait dormi pour la dernière fois. Pas cette nuit, en tout cas. Le chef secoua la tête, pointa à nouveau deux doigts sur ses yeux avec plus d'insistance. Et Tim crut percevoir un murmure dans les profondeurs de son esprit, voire de son âme, ce minuscule éclat étincelant de K. Pour la première fois, il songea que ce n'était peut-être pas ses paroles que comprenaient les habitants du marais.
« Prends garde ?»
Le chef acquiesça. Les autres murmurèrent leur assentiment, et il n'y avait plus aucune trace de joie ni d'hilarité sur leur visage. Le chagrin les faisait ressembler à de petits enfants.
« Prends garde à quoi ?»
Le chef se mit à quatre pattes et tourna sur lui-même de plus en plus vite. Plutôt que des grondements, il émit cette fois-ci une série de jappements. De temps à autre, il se figeait pour tourner la tête dans la direction qu'avait indiqué le disque, c'est-à-dire le nord. Et ses narines encombrées de végétaux frémissaient comme s'il humait l'air. Puis il se leva et tourna vers Tim des yeux interrogateurs.
« D'accord, »
dit Tim. Il ignorait ce que le chef voulait lui faire comprendre et pourquoi ils avaient tous une mine si sinistre. Mais il n'oublierait pas cet avertissement. Et si jamais il apercevait le danger contre lequel on venait de le prévenir, il ne manquerait pas de le reconnaître. Et il s'efforcerait de le comprendre.
« Sai, entendez-vous mes pensées ?»
Le chef acquiesça. Tous l'imitèrent.
« Alors vous savez que je ne suis pas un pistolero. Je voulais seulement me donner du courage. »
Le chef secoua la tête et sourit, comme si ce n'était pas grave. Il lui intima d'un geste de faire attention, puis passa les bras autour de son torse criblé de pustules et se mit à frissonner. Tous les autres l'imitèrent, y compris Timonier et les rameurs. Quelques instants plus tard, le chef se laissa choir sur le sol, qui ploya sous son poids. Les autres l'imitèrent à nouveau. Stupéfait, Tim fixa tous ses corps étendus. Puis le chef se releva, plongea son regard dans celui du petit garçon. Il voulait savoir s'il avait compris, et Tim n'avait que trop bien compris, hélas.
« Est-ce que vous voulez dire ?»
Il fut incapable de finir sa phrase, du moins à voix haute. C'était trop horrible.
« Est-ce que vous voulez dire que vous allez tous mourir ?»
Lentement, tout en le fixant d'un air grave, mais en lui souriant cependant, le chef acquiesça. Alors Tim prouva une bonne fois pour toutes qu'il n'avait rien d'un pistolero. Il se mit à pleurer. Timonier propulsa le bateau d'un coup de perche. Les rameurs de bâbord le firent virer et une fois gagnés les bas-fonds, ils se mirent tous à souquer. Assis à la poupe, Tim ouvrit le panier à provisions. Il mangea peu, car si son ventre était affamé, son esprit avait perdu beaucoup de son appétit. Lorsqu'il fit mine de passer le panier aux rameurs, ceux-ci déclinèrent en souriant. L'eau était lisse.
le rythme des rames lénifiant, et il ne tarda pas à fermer les yeux. Il rêva que sa mère le réveillait sans ménagement, lui annonçant que le soleil venait de se lever et que s'il traînait au lit, il ne pourrait pas aider son pas à sceller les mules.
« Il est vivant ? C'est vrai ? »
demanda-t-il. Et cette question était si absurde que Nell éclata de rire. Quelqu'un le réveillait, pas d'erreur, mais ce n'était pas sa mère. En ouvrant les yeux, il découvrit Timonier penché sur lui, dégageant une odeur si puissante, mi-sueur, mi-compost, qu'il ravala un haut-le-cœur. Et le soleil était levé depuis longtemps. En fait, il avait traversé le ciel et son éclat rouge perçait derrière une rangée d'arbres contrefaits qui poussaient dans l'eau. S'il ignorait le nom qu'on leur donnait, il reconnut sans peine ceux qui se dressaient sur le talus, surplombant le rivage que le bateau des marais venait d'aborder. C'étaient des arbres de fer, et ils étaient gigantesques. Une profusion de fleurs orange et or poussait à leurs pieds, et Tim imagina sa mère ravie de leur beauté, avant de se rappeler qu'elle ne pouvait plus les voir désormais. Ils avaient traversé le Fagonard. Devant eux s'ouvrait le cœur de la forêt. Timonier l'aida à descendre de bateau, et deux des rameurs lui passèrent l'outre et le panier à provisions. Lorsqu'il eut sa guna à ses pieds, sur un sol qui n'avait plus rien de mouvant, Timonier lui fit signe d'ouvrir le sac de la veuve. Une fois que Tim se fut exécuté, Timonier émit un bip qui fit glousser tout son équipage. Tim attrapa la bourse de cuir qui contenait le disque de métal et voulut la rendre à l'homme-plante. Mais celui-ci fit non de la tête et le désigna du doigt. Ce geste était des plus clairs. Tim tira sur la languette et attrapa l'appareil. Il était étonnamment lourd étant donné sa minceur et fort doux au toucher.
« Je ne dois surtout pas le perdre, » se dit-il. « Je reviendrai ici pour le leur rendre, comme je le ferai avec un plat ou un outil que j'aurai emprunté à un voisin, et dans l'état où il était quand on me l'a prêté. Si je fais ça, je les retrouverai sains et saufs. »
Il l'observait avec attention pour s'assurer qu'il se rappelait le maniement de l'appareil. Tim pressa le bouton qui faisait jaillir la tige, puis celui qui déclenchait le bip et la lueur rouge. Cette fois-ci, personne ne riait. Cette fois-ci, c'était du sérieux, peut-être même une question de vie ou de mort. Tim tourna lentement sur lui-même, et lorsqu'il fit face à un sentier filant entre les arbres, un vestige de sentier pour être précis, la lueur rouge vira au vert et il entendit un second bip.
« Toujours au nord, » dit-il. Il continue d'indiquer le chemin pendant la nuit, n'est-ce pas ? Et si les arbres empêchent de voir le vieil astre et la vieille mère ? »
Timonier acquiesça, lui donna une tape sur l'épaule et se pencha pour lui déposer un gentil baiser sur la joue. Puis il recula en hâte, étonné de sa propre témérité.
« Ce n'est rien, » lui dit Tim. « Tout va bien. »
Timonier mit un genou à terre. Les autres, qui étaient descendus de bateau, l'imitèrent. Tous portèrent leurs poings à leur front et s'écrièrent « Heil !» Tim refoula ses larmes.
« Levez-vous, Cerf, si c'est ce que vous pensez être. Levez-vous avec mon amour et ma reconnaissance. »
Ils obéirent et rembarquèrent en hâte. Tim leva le disque métallique.
« Je vous le rapporterai, dans l'état où je l'ai pris, je vous le promets. »
Lentement, mais sans cesser de sourire, ce qui était plus triste encore, Timonier fit non de la tête. Après avoir gratifié le petit garçon d'un ultime regard plein d'affection, il donna un coup de perche pour s'éloigner de la terre ferme et regagner ce domaine instable qu'était le Fagonard. Tim regarda le bateau voguer doucement vers le sud. Lorsque les rameurs levèrent leurs rames pour le saluer, il leur répondit par un geste de la main. Il resta là jusqu'à ce que l'embarcation devienne à une forme spectrale embrasée par le couchant, pleurant à chaudes larmes et résistant, non sans peine, à l'envie d'implorer son retour. Lorsque le bateau eut disparu, il cala sa guna contre son flanc, se tourna vers la direction indiquée par le disque et s'enfonça dans la forêt. La nuit tomba. Bientôt, le clair de lune se réduisit à une lueur fugace et trompeuse, puis s'effaça tout à fait. Le sentier était toujours là, Tim n'en doutait pas, mais il était facile de s'en écarter. Les deux premières fois où cela lui arriva, il réussit à éviter de se cogner à un arbre, mais la troisième, il y échoua. Alors qu'il méditait sur Merlin et sur le caractère improbable de son existence, il emboutit un arbre de fer de plein fouet. Il ne laissa pas choir le disque argenté, mais le panier à provisions répandit son contenu sur le sol.
« Et voilà, je vais être obligé de me mettre à quatre pattes pour tout ramasser, et je vais sans doute y passer la nuit sans être sûr de rien oublier et... »«
Voulez-vous de la lumière, voyageur ?»
demanda une voix féminine. Plus tard, Tim se persuaderait qu'il avait poussé un cri de surprise. Nous avons tous tendance à déformer nos souvenirs dans un sens qui nous est favorable. Mais la vérité était tout autre. Il poussa un cri de terreur, lâcha le disque, se releva d'un bond et faillit prendre ses jambes à son cou. Et tant pis s'il fonçait dans un arbre. Mais son instinct de survie reprit le dessus. S'il s'enfuyait, sans doute ne retrouverait-il jamais les provisions qu'il avait fait tomber. Pas plus que le disque, qu'il avait promis de rendre intact à ses légitimes propriétaires. C'était le disque qui avait parlé. Ridicule! Même une fée menue comme Armanetta n'aurait pas pu rentrer dans un si petit objet. Mais pas plus ridicule qu'un petit garçon s'aventurant tout seul dans la forêt sans fin en quête d'un magicien, sans doute mort depuis des siècles, et qui, même s'il était encore en vie, se trouvait sans doute à des milliers de roues de là, dans cette partie du monde où jamais la neige ne fondait. Il chercha des yeux la lueur verte, sans succès. Le cœur battant à tout rompre, il tomba à genoux et fouilla autour de lui à tâtons, effleurant un paquet de popkins au port, puis un paquet de baies, répandus sur le sol pour la plupart, et pour finir le panier à provisions. Mais pas de trace du disque.
« Parnis, où êtes-vous »
cria-t-il en désespoir de cause.
« Ici, voyageur, »
dit la voix féminine. Elle était d'un calme parfait et venait de sa gauche. Il se tourna vers elle, toujours à quatre pattes.
« Où ça ?»«
Ici, voyageur. »«
Continuez de parler, s'il vous plaît. »
La voix le prit au pied de la lettre.
« Ici, voyageur. »« Ici, voyageur. »« Ici, voyageur. »
Au bout d'un certain temps, sa main se referma sur le précieux artefact. En le retournant, il vit la lueur verte. Il le pressa contre son cœur, le visage en sueur. Jamais il n'avait été aussi terrifié, même lorsqu'il s'était retrouvé sur la tête du dragon. Et jamais il ne s'était senti aussi soulagé.
« Ici, voyageur. Ici, voyageur. Ici,
je vous tiens !»
dit-il, se sentant à la fois stupide et très malin.
« Vous pouvez vous taire maintenant. »
Silence. Tim resta immobile pendant 5 bonnes minutes, écoutant la rumeur nocturne de la forêt, beaucoup moins menaçante que celle du marais, et reprenant peu à peu contenance. Puis il dit
« Oui, Sai, j'aimerais un peu de lumière. »
Le disque émit le même vrombissement que lorsque la tige était apparue, et soudain, il en jaillit une lumière si vive que Tim en fut un instant ébloui. Les arbres réapparurent autour de lui et une créature, qui s'était approchée sans faire de bruit, poussa un glapissement et s'enfuit d'un bond. Il ne put la distinguer nettement, mais entrevit une fourrure soyeuse et, peut-être, une queue en tire-bouchon. Une seconde tige saillait du disque. À sa pointe, une petite boule encapuchonnée émettait une lueur incandescente. On eût dit du phosphore qui ne se serait pas consumé. Tim ignorait comment un disque aussi plat pouvait abriter une tige et une boule, mais cela lui était égal. Une seule chose importait à ses yeux.
« Combien de temps ça va durer, madame ? »
Votre question manque de précision, voyageur. Veuillez la reformuler.
Combien de temps va durer cette lumière?
La batterie est chargée à 88%. Son espérance de vie est de 70 ans, à 2 ans près.
70 ans, ça devrait suffire.
Il entreprit de ramasser le contenu de sa guna. Grâce à la lumière éblouissante, le sentier était encore plus net qu'au bord du marécage. Mais il montait suivant une pente assez forte, et à minuit venu, s'il était bien minuit, car Tim n'avait aucun moyen de le savoir, la fatigue finit par avoir raison de lui, en dépit de sa longue sieste à bord du bateau. Sans compter que la chaleur oppressante n'avait rien de reposant. Et l'outre et le panier lui semblaient de plus en plus lourds. Il s'assit, posa le disque près de lui, ouvrit le panier et mangea une popkin. Elle était délicieuse. Il envisagea d'en prendre une seconde, puis se rappela qu'il ne savait pas combien de temps devaient durer ses rations. Par ailleurs, il se dit que l'éclat émanant de sa boussole risquait d'attirer les créatures rôdant dans les parages et que tout n'était pas forcément amical.
« Pouvez-vous éteindre la lumière, madame ?»
Il n'était pas sûr qu'elle l'écouterait. Durant les 4 ou 5 heures précédentes, il avait plusieurs fois tenté d'engager la conversation, sans succès. Mais la lumière s'éteignit, le plongeant dans les ténèbres. Et aussitôt, il sentit des présences autour de lui. Des sangliers, des loups, des vurtes, voire des pouquis. Et il dut se faire violence pour ne pas lui demander de rallumer. En dépit de la chaleur torride, les arbres de fer semblaient savoir que c'était la pleine terre, et il en était tombé une masse de flocons qui recouvraient les fleurs poussant à leurs pieds. Tim ramassa de quoi se confectionner un matelas et s'allongea dessus.
« Je suis devenu zippa, » se dit-il.
Dans le village de l'arbre, ce terme désignait les gens qui avaient perdu l'esprit, sauf qu'ils ne se sentaient pas zippa. Ils se sentaient repus et comblés, tout en continuant à se faire du souci pour les hommes du Fagonard.
« Je vais dormir, » dit-il. « Pouvez-vous me réveiller en cas de besoin, Sai ?»
La réponse qu'elle lui donna était incompréhensible.
« Directive numéro 19. »«
C'est le nombre qui suit 18 et précède 20, »
songea Tim en fermant les yeux. Il s'endormit aussitôt, non sans envisager de poser une autre question à la voix désincarnée.
« Avez-vous parlé au peuple du Marais ?»
Mais il n'en eut pas le temps. Au cœur de la nuit, la forêt sans fin s'anima autour de Tim Ross, se peuplant de petits animaux rampants. À l'intérieur du système sophistiqué, baptisé Module de guidage portable d'Aria, North Central Positronics NCP 1436-345AN, le fantôme dans la machine repéra ces créatures sans toutefois les juger dangereuses. Tim continua de dormir. Les Trokens, ils étaient 6, formèrent un demi-cercle autour du petit garçon. Ils le fixèrent un moment de leurs étranges yeux cerclés d'or, puis ils se tournèrent vers le nord et levèrent leur museau vers le ciel. Au-dessus des confins septentrionaux de l'entre-deux-mondes, là où la neige est éternelle et où jamais ne vient la nouvelle terre, un grand tourbillon se formait, avalant un air trop chaud qui venait des régions australes. Lorsqu'il commença à souffler ainsi qu'une forge, il absorba une piche d'air froid et se mit à tourner de plus en plus vite, créant une pompe d'énergie qui s'alimentait elle-même. Bientôt, son pourtour effleura le sentier du rayon, que le module de guidage d'Aria captait par émission électronique et que Tim Ross percevait comme un vague sentier à travers bois. Le rayon goûta la tempête, la trouva bonne et l'avala. Bientôt, le coup de givre se déplaça vers le sud, le long du sentier du rayon, lentement tout d'abord, puis de plus en plus vite.
Le chant d'un oiseau réveilla Tim, qui se redressa en se frottant les yeux. L'espace d'un instant, il se demanda où il se trouvait, mais le panier posé près de lui et le soleil dans les frondaisons des arbres de fer alentour lui rafraîchirent la mémoire. Il se leva, voulut s'isoler pour faire ses besoins matinaux, puis se ravisa. Il aperçut plusieurs crottes autour de sa couche de fortune et se demanda quelle sorte de bestiole était venue lui rendre visite durant la nuit.
« Elles étaient plus petites que des loups, en tout cas, » se dit-il. « Il faudra que je me contente de cela. »
Il baissa sa culotte dans un coin tranquille. Cela fait, il ferma le panier, constatant avec quelque surprise que ses visiteurs nocturnes ne l'avaient pas vidé. But une gorgée d'eau et ramassa le disque argenté. Ses yeux se posèrent sur le troisième bouton. La voix de la veuve Smack résonna dans son crâne, lui ordonnant de ne pas y toucher, surtout pas. Mais il décida que ce conseil était malvenu. S'il avait écouté tous les conseils qu'on lui avait dispensés, il n'en serait pas là. Certes, sa mère n'aurait peut-être pas perdu la vue, mais le grand Kells serait toujours son beau pas. La vie était une suite de tels échanges, supposait-il. Il appuya sur le bouton en espérant que l'appareil n'allait pas lui exploser entre les mains.
« Bonjour, voyageur, »
dit la voix féminine. Tim voulut lui rendre son salut, mais elle ne lui en laissa pas le temps.
« Je suis Daria, un module de guidage de North Central Positronics. Vous suivez le rayon du chat, autrement dit, le rayon du lion ou du tigre. » Vous êtes également sur la voie de l'oiseau, autrement dit la voie de l'aigle, la voie du faucon ou la voie de la vulturine. Toutes choses servent le rayon.
C'est ce que l'on dit,
acquiesça Tim, si émerveillé qu'il avait à peine conscience de parler à voix haute.
Sauf que nul ne sait ce que ça signifie.
Vous avez quitté le relais 9, dans le marais de Fagonar. Il n'y a pas de Dogan à Fagonard, mais il y a un poste de rechargement. Si vous avez besoin d'un poste de rechargement, dites oui, et je calculerai votre trajet. Si vous n'avez pas besoin d'un poste de rechargement, dites continuez.
Continuez, dit Tim. Dame Daria, je cherche Merlin.
Elle fit la sourde oreille.
Le prochain Dogan sur votre route se trouve dans la forêt de Kinoknor, autrement dit l'aire du Septentrion. Le poste de chargement qui est installé est déconnecté. Les perturbations affectant le rayon suggèrent la présence de magie en ce lieu, et peut-être aussi d'une vie changée. Il vous est recommandé de faire un détour. Si tel est votre souhait, dites « détour » et je calculerai le nouveau trajet. Si vous souhaitez vous rendre au Dogan de la forêt de Kinoknor, autrement dit l'aire du Septentrion, dites « continuez ».
Tim réfléchit au choix qu'on lui proposait. Si Daria lui suggérait de faire un détour, ce Dogan devait présenter un danger. D'un autre côté, n'était-ce pas de la magie qu'il recherchait? De la magie, voire un miracle? Et il était déjà monté sur le crâne d'un dragon. Ce Dogan de la forêt de Kinoknor pouvait-il être plus dangereux encore?
Oui, beaucoup plus peut-être,
se dit-il. Mais il avait la hache de son père, la pièce porte-bonheur de son père et un quatre-coups, en parfait état de marche et ayant déjà fait couler le sang.
Continuez,
déclara-t-il.
La distance vous séparant du Dogan de la forêt de Kinoknor est de 50 miles, soit 45,45. Le terrain est praticable. Les conditions météorologiques...
Daria marqua une pause, émit un fort déclic, puis...
Directive numéro 19.
Qu'est-ce que la directive numéro 19, Daria?
Pour outrepasser la directive numéro 19... Veuillez donner votre mot de passe. Il vous sera peut-être demandé de l'épeler.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Êtes-vous sûr de ne pas souhaiter que je calcule un détour, voyageur? Je détecte une forte perturbation dans le rayon, indicatrice d'une activité magique.
Est-ce de la magie blanche ou de la magie noire ?
Tim n'avait trouvé que cette façon de traduire pour le disque la question qui le taraudait. S'agit-il de Merlin ou de l'homme qui nous a fourré dans ce pétrin, ma mère et moi ? Lorsque 10 secondes eurent passé dans un silence total, Tim se dit qu'il ne recevrait jamais de réponse, hormis peut-être un nouveau rappel de la directive numéro 19, ce qui revenait au même. Même la réponse finit par venir, quoiqu'elle ne lui soit guère utile.
« Les deux, »
dit Daria.